Bonjour à tous, bienvenue à l'Église Le Sentier. Mon nom est Dominique, je suis un des pasteurs ici et on est vraiment content, comme on a dit tantôt, si vous êtes ici comme visiteur ce matin, que vous soyez parmi nous. J'aimerais vous souhaiter personnellement une bonne fin de semaine de l'Action de grâce et surtout que chacun d'entre nous on puisse être reconnaissant de ce que Dieu a fait dans nos vies, des bénédictions de Dieu dans nos vies. Et ce matin, j'espère qu'on va pouvoir être encouragé justement d'être capable de voir les bénédictions de Dieu, d'être capable de voir comment Dieu est bon, même quand que, c'est plus difficile de le voir. Et comme vous savez, on est en train de passer au travers d'une série ensemble, Marc, opération de sauvetage. Et j'aimerais ça, c'est ça qu'on va voir, on va continuer encore ce matin. Et j'aimerais vous raconter un temps, il y a quelques années, j'hésitais à en dire quelques années ou plusieurs années, c'était dans mon adolescence. Moi, je pense que c'était pas si loin que ça. Mais quand j'étais adolescent, j'ai travaillé pendant quelques étés comme bénévole au Cadre des Boulots. J'ai fait en fait 3 étés comme bénévole et quelques fois, j'y allais les fins de semaine, soit comme travailleur ou comme campeur les fins de semaine et tout. Et le Cadre des Boulots, c'est un camp que plusieurs églises ensemble supportent. Et il y a différentes fins de semaine ou semaines qu'on peut aller pendant l'été pour se reposer, se ressourcer, où il y a un enseignement de la parole de Dieu. Et encore aujourd'hui, plusieurs de nos adolescents vont comme staff. Et une des choses qu'on remarque, et cette année je l'ai vu, je remercie Dieu pour ça, c'est quand que nos jeunes reviennent du camp des boulots, on voit comment ils ont été encouragés de pouvoir être des bénévoles, qui ont été encouragés par les enseignements de la parole de Dieu qu'ils ont eu, par la formation qu'ils ont eu avec leur responsable. Et je me souviens quand que moi j'avais 16-17 ans et je revenais d'un été au Cadre des Boulots. Je passais 8 semaines là-bas, je revenais et puis je me souviens à quelques reprises où est-ce que Dieu il s'est révélé à moi. J'avais l'impression que Dieu me disait, bon maintenant, Dieu, c'est comme si j'avais cet appel dans ma vie de Dieu qui me dit, maintenant je veux que tu marches avec moi, je veux que tu me suives, je veux que tu puisses partager ta foi avec tes amis à l'école, je veux que tu puisses être un encouragement pour les autres autour de toi. J'avais cette conviction, ce désir d'avoir un impact pour Jésus dans la vie des autres, parce que Dieu avait été tellement bon envers moi. Et je suis sûr qu'on a souvent ces moments dans nos vies, si tu as une relation avec Jésus ce matin, si Jésus c'est ton sauveur, on a ces moments dans nos vies où est-ce que Dieu nous fait du bien, Dieu nous montre une direction, des désirs qu'on a pour nos vies. On est là puis on dit, OK Seigneur, je veux te suivre, je veux marcher avec toi, je veux aller là où est-ce que tu vas m'amener. On a ces désirs, certains de ces désirs qui sont comme des simples désirs. Je veux juste être fidèle, je veux avoir des bonnes relations, j'aimerais ça pouvoir élever mes enfants dans la foi, j'aimerais avoir un mariage heureux. On a ces désirs que Dieu met sur notre cœur et qu'on dit, OK, avec toi Seigneur, ça va marcher, on va y aller puis il n'y aura pas de problème. Et je me souviens de ces étés-là où est-ce que je revenais, où est-ce que je me sentais fort. J'avais passé l'été avec mes amis chrétiens, où est-ce qu'on s'encourageait, on priait ensemble le matin, on parlait de Dieu ensemble. J'étais comme, OK, maintenant, quand je vais aller à l'école, je vais partager ma foi aux autres, je vais lire ma Bible à tous les jours. Tout va toujours bien aller, comme au camp des boulots. Et on vit ces moments-là dans nos vies. C'est pas juste le camp, mais c'est plein d'autres moments dans nos vies. Et puis là, j'arrivais à l'école, puis oups, c'était plus difficile. J'arrivais, je me sentais moins fort soudainement. Il y avait de l'adversité, il y avait des moments, des temps plus difficiles. Et puis là, c'est comme, OK, ben, je commençais à me poser des questions. Pourquoi c'était facile il y a 2 semaines, 1 mois? Pourquoi est-ce que j'avais tellement cette conviction-là que Dieu était avec moi, qu'il n'allait pas m'abandonner? Et là, tu te mets à te poser plein de questions. Et souvent, on est justement ici, dans le milieu, dans le présent, dans nos vies, entre deux temps, entre deux moments. On est ici entre ce moment où on voit Dieu nous dire « Viens, suis-moi, puis on va avoir un impact dans le monde. » Ou entre ce moment où tu as ce désir d'élever tes enfants pour la gloire de Dieu, de voir ta famille venir à l'Évangile, d'avoir un mariage heureux. On est dans le milieu entre ce moment où on est rempli d'espoir et entre celui où on attend Dieu accomplir ses promesses, Dieu nous montrer sa fidélité. Mais souvent dans le milieu, il y a quoi? Il y a le découragement. Parfois, il va y avoir la résignation, la peur, la tentation. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es ici ce matin et tu vis dans des moments de doute, de découragement? Tu as peut-être même honte de poser des questions à Dieu parce que tu as l'impression que le Dieu qu'on t'a présenté ou celui en qui tu as cru, il n'est pas en train d'accomplir les promesses qu'il t'a faites. Est-ce que tu es ici ce matin? Eh bien, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble, que Dieu ouvre nos cœurs, que Dieu nous encourage et qu'on puisse regarder ensemble dans l'évangile de Marc comment est-ce que Jésus a opéré son opération de sauvetage avec ses disciples qui ont vécu une situation identique à celle qu'on a présentée. Alors, prions ensemble. Seigneur Dieu, on te prie que ce matin que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses nous encourager. Qu'on puisse ensemble avoir cette joie, ce désir de te connaître, de continuer à te suivre, à persévérer malgré les moments difficiles de nos vies. Seigneur, touche nos cœurs. Seigneur, on te prie que tu puisses nous bénir et merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et tout ce que tu continues de faire pour nous. C'est dans ton nom qu'on te prie. Amen. Donc, si vous avez votre Bible, vous pouvez venir avec moi dans Marc chapitre 4, au chapitre 4 de Marc. On va lire à partir du verset 35. Donc, Marc, chapitre 4, verset 35, nous dit « Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons de l'autre rive. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Vraiment une histoire spectaculaire. Et c'est intéressant parce que quand on lit la Bible, on lit des histoires qui sont racontées par des gens qui ont témoigné de ce, qui ont vu cette, qui ont été présents dans cette tempête. Ici, Marc, il nous raconte une histoire. On lui a rapporté des faits, on lui a rapporté des détails, des gens qui ont partagé qu'est-ce qui s'est passé. Et j'aimerais ça qu'on regarde ensemble ce matin cette courte petite histoire dans l'Évangile de Marc. Comment est-ce que Jésus a répondu à la peur, à la grande peur des disciples qui étaient dans la barque avec lui? Tout d'abord, Jésus, c'était le soir, et là, il dit à ses disciples, on va passer de l'autre rive, on va aller de l'autre bord. Ce que Jésus voulait faire, et ce qu'on voit par la suite quand on continue à lire l'Évangile de Marc, c'est que Jésus voulait aller prêcher la bonne nouvelle de l'autre bord du lac. Du lac ou de la mer. Dans certaines Bibles, c'est le lac de Tibériade, dans d'autres, c'est la mer de Galilée, tout dépendamment de la version que vous êtes en train de lire ce matin. Mais Jésus dit, on va aller de l'autre bord pour prêcher l'Évangile aux gens qui sont là. Et la chose qui est surprenante pour les disciples qui entendent cette histoire-là, c'est que de l'autre bord, c'est pas un territoire juif. Nous, on va jamais là. Nous, on va jamais... Les Juifs disaient, nous, c'est comme on n'a pas le droit d'aller de l'autre bord, on va pas de l'autre bord. Mais Jésus, lui, qui est en train de prêcher la bonne nouvelle, qui est en train de parler de lui, qu'est-ce qu'il va faire pour le peuple, lui, son désir, c'est que tout le monde puisse connaître l'Évangile. Et à ce moment-là, Jésus décide de dire à ses disciples, on va aller de l'autre bord, et on va continuer à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire de prêcher la bonne nouvelle. Et ça, ses disciples qui sont avec lui, qui suivent Jésus, il s'adresse à eux, puis là, il dit, venez avec moi, on va passer de l'autre bord. Voici leur appel à eux, leur mission, aller prêcher la bonne nouvelle avec Jésus dans un nouveau territoire. On sait que plus tard, la majorité de ses disciples-là vont mourir parce qu'ils partagent la bonne nouvelle. Et ils vont aller partout dans le monde. C'est le plan de Dieu que tout le monde puisse entendre la bonne nouvelle. Et j'aimerais dire que c'est une bonne nouvelle pour nous, ça, à Gatineau. Alors, ses disciples le suivent. Mais ils ne se doutaient certainement pas, à ce moment-là, de l'aventure qu'ils allaient vivre. Le lac de Tibériade ou la mer de Galilée vivait souvent des tempêtes. Encore aujourd'hui, c'est reconnu comme un endroit où il y a des tempêtes assez spectaculaires. Et c'est simplement dû à la géographie des lieux. Il y a une montagne qui est à environ à 50 km au nord du lac, qui est assez haute. Et puis, l'air froid de la montagne versus l'air chaud du lac fait qu'il y a souvent des tempêtes dans ce coin-là. Et les disciples de Jésus, certains d'entre eux étaient des pêcheurs. Leur travail, c'était de pêcher du poisson. Ils étaient souvent sur le lac. Ils connaissaient la température. Ils reconnaissaient qu'il y avait des tempêtes à cet endroit-là. Ce n'était pas nouveau pour eux. On voit qu'il y avait d'autres bateaux avec Jésus. Il y avait d'autres bateaux dans le lac à ce moment-là. Donc, il n'y a rien qui annonçait qu'il allait y avoir une tempête. Quand Jésus dit à ses disciples, « Venez, on va aller de l'autre bord, on va continuer ce qu'on fait, suivez-moi. » Les disciples le suivent. Il n'y a aucun problème à ce moment-là. Les apôtres, certains de ces apôtres-là, c'était des experts de cet environnement-là. Ils étaient prêts à traverser sans crainte. Ce n'étaient pas des amateurs insoucieux, comme des fois, parfois, on peut juste, on part en vacances, puis on décide d'aller faire du bateau, mais on n'a jamais fait ça. On ne calcule pas les vagues, le vent, est-ce qu'on va être capable de se rendre? Ça arrive parfois. Cet été, je suis allé faire du canot, un canot camping, une fête de semaine, un canot camping avec ma femme. Et le samedi, alors qu'on était sur notre terrain, il annonçait des éclaircies, des nuages, de la pluie, un peu toute la patente. Là. C'est une genre de journée où est-ce que tu ne sais pas trop qu'est-ce qui va arriver. Donc là, on est là, puis on se dit, ça serait le fun d'aller faire du canot sur le lac. Puis là, on voit des nuages s'en venir. On dit, il va pleuvoir bientôt, fait qu'après ça, on va y aller. Donc là, on voit la pluie qui tombe, on décide d'y aller. Puis là, ça fait une demi-heure qu'on est là sur le lac, comme pas vraiment proche de notre campement, puis on voit d'autres nuages s'en venir. Puis on aurait dû savoir qu'on allait se faire mouiller, mais nous, dans notre tête, on était comme des touristes, là, vraiment contents de se promener en canot. Puis ouais, et finalement, on s'est fait pogner à la pluie. On s'est fait pogner solide. Mais parfois, moi, je ne suis pas un expert, en fait, cette journée-là, peut-être que ça aurait dû être évident, mais je me dis, la pluie est passée, on va être correct. Mais ces gars-là, c'était des experts. Ils pouvaient regarder les choses puis voir, peut-être que là, ce ne serait pas un bon temps d'y aller, Jésus. Mais à ce moment-là, rien ne laissait entendre ça. Et puis là, à un moment donné, le passage nous dit qu'il a commencé à avoir des gros vents. Et puis la tempête a s'élevé. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Donc à un moment donné, on ne sait pas ça faisait combien de temps qu'il y avait une tempête, on ne sait pas ça faisait combien de temps que les disciples essayaient de survivre à jeter l'eau sur le bord puis dire « OK, on va être correct, on va essayer de naviguer ça. » Mais à un moment donné, la barque se remplissait et les disciples ont commencé à avoir peur. Et comme certains de ses disciples étaient des pêcheurs, ils étaient habitués sur le lac, probablement qu'ils ont déjà eu d'autres temps où c'était pas très beau, mais là, c'était trop pour eux aussi. Ils étaient au bout d'eux-mêmes, au bout de leurs ressources. Ils étaient au bout de leurs forces. On ne sait plus quoi faire. Et là, à ce moment-là, une fois qu'ils avaient tout essayé, qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils sont allés réveiller Jésus qui dormait dans le fond de la barque. Jésus était là, il dormait. Et puis là, les disciples viennent le voir puis ils posent une question quand même assez intéressante. Est-ce que ça ne te dérange pas qu'on est en train de mourir? Est-ce que ça ne te dérange pas qu'on est en train de mourir? Jésus dormait dans la tempête. Jésus, c'est toi qui nous as dit, viens, on s'en va là-bas. Puis là, tu dors dans la tempête. Est-ce que c'est l'impression qu'on a parfois dans notre propre vie de dire... Jésus, là, il y a une tempête dans ma vie, puis qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? C'est quand qu'on va arriver de l'autre bord? Est-ce que je suis le seul à me demander ça parfois? Jésus, tu dors-tu? Est-ce que tu t'intéresses à moi? Est-ce que tu t'inquiètes de ce qui se passe? Parce que de ma perspective à moi, il n'y a pas de dénouement heureux pour moi ici, là-dedans. Qu'est-ce que tu fais, Jésus? Ça peut être toutes sortes de tempêtes qu'on vit dans nos vies. Peut-être que tu te demandes, pourquoi est-ce que je vis tant d'anxiété ou de honte ou de déception alors que tout ce que je voulais, c'était d'être heureux? Et on me dit qu'avec toi, je serais heureux, mais là, ce n'est pas ce qui se passe dans ma vie, Jésus. Parfois, on peut être attristé par un enfant dans notre famille qui s'éloigne de Dieu, puis on se dit, Seigneur, j'avais tellement mis d'espoir en toi pour que mes enfants puissent te suivre. Parfois, c'est la solitude. Je suis tanné d'être seul, Seigneur. J'ai choisi de te suivre, d'attendre que tu me donnes une personne, un homme, une femme qui t'aime, qui veut te plaire. Mais là, on dirait qu'il n'y en a pas, puis je ne sais pas s'il va en avoir. On est découragé. Et les disciples se posaient la même question. Est-ce que ça ne te fait rien qu'on soit en train de mourir? Quand on considère une tempête, on sait que c'est violent, une tempête. Quand on regarde les nouvelles, par exemple, et qu'on voit des tremblements de terre, des ouragans, des tsunamis, qu'on voit le ravage que toutes que les tempêtes peuvent faire, que la nature fait. Quand on regarde, par exemple, les inondations qu'on a eues au printemps dernier, puis qu'on voit l'eau monter, puis tu es là, puis les gens qui sont sur le bord de la rivière, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Oui, il y a des moyens que certains ont pris, mais pas tout le monde pouvait les prendre. Je ne sais pas pour vous, mais quand je me retrouve dans le bois, parfois justement en camping, et puis que là, il commence à pleuvoir. Là, moi, je me réveille, puis je dis, OK, il pleut, c'est pas si pire. Mais là, tu sens le vent en plus qui commence à se faire aller pas mal fort. Puis là, moi, je commence à me poser des questions à ces moments-là. Ça se peut-tu qu'un arbre va nous tomber sur la tête? Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis là, si en plus, il fallait qu'il y ait du tonnerre, tu es dans ta petite tente en tissu, puis là, tu es là au milieu de la nature, puis là, tu es. C'est pas le moment de dire, hey, moi je suis fort, je suis plus fort que. Hein, je me sens comme vraiment en confiance. On se rend compte à quel point la nature est forte. Et puis là, les disciples sont au milieu de leur bateau, dans le lac. Ils sont dans leur bateau, dans le milieu du lac. Et ils vivent cette tempête. Mais en plus, pour les disciples et pour les cultures anciennes, il y avait cette notion-là que la tempête, c'était ce synonyme de ténèbres, de danger, de violence. La mer était signe de destruction indomptable. Le théologien N.T. Wright note qu'à l'exception des pêcheurs, le peuple juif n'était pas connu pour être un peuple marin. Ils étaient des gens de la terre. Dans leur héritage culturel et spirituel, les eaux symbolisaient les puissances obscures du mal, menaçant la création de Dieu, son peuple, ses plans et ses desseins. Dans des livres comme Daniel, la mer est censée contenir des monstres, par exemple. Apocalypse 21:1 nous parle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, donc ce monde parfait que Dieu va amener à la fin, quand Dieu va revenir dans le monde parfait dans lequel on va vivre. Il nous dit qu'il n'y aura plus de mer dans les nouveaux cieux, dans la nouvelle terre. Pour les disciples, il y a quelque chose de grave qui est en train de se produire là. C'est au-delà de la nature, c'est spirituel, c'est la mère qui est en train d'avoir raison d'eux. Et ultimement, la mère est en train d'avoir raison de Jésus, qui est en train de dire, allons de l'autre bord, on va aller annoncer la bonne nouvelle. Ils sont vraiment effrayés dans la crainte. Alors Jésus se lève et dit à la tempête, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Puis, soudainement, ce que le texte nous dit, c'est qu'il y a eu un calme. Tout s'arrêta. Le vent tomba, il y eut un grand calme. Il semble ici avoir une répétition. Le vent tombe, il y eut un grand calme. Mais les disciples, encore une fois, veulent nous faire comprendre que ce qu'ils ont expérimenté n'était pas comme ils vivaient d'habitude. Parce qu'habituellement, quand une tempête arrête, on peut voir le vent qui va tomber, on va voir la tempête qui... Mais même quand la tempête est finie, même le soleil est revenu, on peut encore voir des grandes vagues sur le lac qui vont être en train de se faire aller, puis là, la tempête va se diminuer tranquillement. Mais Jésus, quand il a parlé, tout d'un coup, tout a arrêté. un grand calme. Et puis, c'est vraiment intéressant parce que ce que les disciples veulent nous dire, c'est, OK, oui, il y a souvent des tempêtes qui viennent et qui partent dans le lac, mais là, ce qu'on veut que vous sachiez, c'était pas juste un addon, là, c'était pas par hasard que Jésus s'est levé et que la tempête a arrêté à ce moment-là. Parce que la manière que la tempête a été arrêtée, on n'a jamais vu ça. On est convaincu que Jésus a calmé la tempête. Il n'y a pas d'autres explications. Et là, Jésus leur pose une question. Considérant ce qui se passe, c'est quand même une question intéressante. Mais Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous aviez aussi peu de foi? Quand on regarde ça à première vue, oui, après qu'on étudie le passage et si on a lu Marc, qu'est-ce qui s'est passé avant et après et tout, c'est une question qui fait du sens. Mais quand on regarde ça à première vue, il me semble que cette question est un petit peu bizarre. Parce que les disciples, ils viennent voir Jésus au moment où ils sont convaincus qu'ils sont en train de mourir. Les disciples, ils viennent voir Jésus au moment où ils sont comme là, c'est la fin. Là. Si Jésus ne fait rien, on est mort. Pourquoi, comme, même, ils ne demandent même pas à Jésus de faire quelque chose, ils demandent, ça ne te fait rien qu'on soit en train de mourir. Et Jésus leur dit, pourquoi avez-vous aussi peu de foi? Est-ce que vous n'avez pas vu tout ce que j'ai fait déjà? Est-ce que je n'ai pas déjà fait des grands miracles ou des choses impossibles? Est-ce que vous m'avez déjà dire que j'allais faire quelque chose puis que je ne l'ai pas fait? Je vous ai dit qu'on allait aller de l'autre bord. Pourquoi est-ce que vous doutez de la parole que je vous ai dit? Je vous ai appelé à me suivre. Je vous ai appelé à me suivre. Et là, dans ce cas précis, pour aller prêcher la parole, la bonne nouvelle à d'autres peuples, et qu'est-ce qui vous fait croire qu'on n'allait pas y arriver? Mais probablement, les disciples disaient, la tempête, on croyait qu'on allait mourir. Mais Jésus est en train de leur dire, il n'y avait aucune chance que ma promesse, que ma parole ne se réalise pas. Vous auriez dû avoir confiance en moi. Fait que dans un sens, Jésus prend le temps de calmer la tempête et leur démontrer à quel point il est grand, à quel point il est puissant. Et d'un autre côté, il va les reprendre pour leur dire, vous devriez savoir que ce que je dis avant la tempête, c'est encore vrai dans la tempête. Les promesses que je t'ai faites ou l'appel que je t'ai lancé, alors que tu étais convaincu que tu voulais me suivre, que tu voulais faire ma volonté, alors que tu as cru en moi, c'est encore vrai quand ça va moins bien. C'est encore vrai quand que tu vis du désespoir. Oui, les disciples avaient peur. Il y avait un réel danger. Il y avait cette peur qu'ils avaient en eux. C'est pas une peur qui était non justifiée, comme on vient de voir. Et cette peur-là, souvent, crée le doute en nous. Est-ce que je crois dans la bonne chose? Est-ce que Dieu est aussi fort et puissant qu'il me le dit? Et c'est souvent à ce moment-là qu'on oublie la mission, qu'on oublie où on s'en va, on oublie ce que Jésus nous a dit. Et voici comment Jésus l'adresse. Il leur dit, il leur rappelle encore une fois, « Vous n'avez rien à craindre avec moi. N'ayez pas peur, je prends soin de vous. » Et les disciples, à ce moment-là, ils viennent de vivre un miracle exceptionnel. Ils viennent d'avoir ces paroles de Jésus. Et ce qu'on voit, c'est que leur réaction, c'était pas la joie. C'était même pas le soulagement. C'était la crainte. Parce que les disciples ont été témoins. Les disciples de Jésus ont été témoins de sa puissance. Ils ont entendu ses paroles. Et bien que leur réaction aurait dû être le soulagement, la confiance et la joie, le texte nous révèle qu'ils sont effrayés. Qui est cet homme? Même la mer et le vent lui obéissent. Mais voici quatre vérités que cette histoire nous enseigne. Quatre vérités que cette histoire nous enseigne pour nous aider à passer à travers des tempêtes de nos vies. Quatre vérités. La première, c'est que Jésus est plus puissant que toutes les tempêtes. Jésus est plus puissant que toutes les tempêtes. Parce que là, tout d'un coup, les disciples n'ont plus peur de la tempête, mais ils ont peur de celui qui a calmé la tempête. La tempête est puissante, mais lui est encore plus puissant. Les ténèbres, la mort, peut-être même les puissances du mal, qui sait ce qu'ils avaient en tête, se sont déchaînés contre nous et Jésus est venu d'un seul mot se lever et a calmé la tempête. Jésus fait la démonstration par cet acte grandiose qu'il est plus puissant que tout. Que s'il contrôle les éléments, en fait, il contrôle tout. Il contrôle nos vies. Et quand on arrive à cette évidence que Jésus contrôle nos vies, alors on a d'autres choix que de soumettre notre vie à Jésus. Et ça, parfois, ça fait peur. Ça fait peur, pourquoi? Parce que bien qu'on reconnaisse son contrôle, bien qu'on reconnaisse sa puissance, on reconnaît aussi, et c'est ce que le passage nous montre, la deuxième vérité, c'est que Jésus nous laisse passer par des tempêtes. Alors qu'on aimerait ça, que sa puissance soit synonyme de toujours de paix, de jamais de souffrance, jamais de douleur, jamais de difficulté. La réalité, c'est que Jésus accepte et nous laisse passer par des tempêtes dans nos vies. Notre attente, parfois, serait qu'il n'y a pas de problème avec Jésus. Et souvent, dans la souffrance, parce que c'est la réalité de chaque être humain, dans les temps difficiles, dans les tempêtes, on va penser des choses comme, si Dieu est bon, s'il s'intéresse à moi, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi il permet que ça l'arrive? Le problème, c'est que si on croit qu'il n'existe plus de souffrance quand on est chrétien, alors du moment que la tempête va frapper, on va se tourner ailleurs. On va se tourner ailleurs pour avoir notre refuge, notre délivrance. On va abandonner le projet, celui qu'on avait entrepris avec Dieu. Parfois, on va se dire des choses comme, « OK, je peux comprendre un peu de souffrance, c'est normal. C'est acceptable, mais là, c'est trop, ça fait trop longtemps. » Alors que le temps de Dieu n'est pas notre temps, je vais me tourner ailleurs pour mon refuge. Puis la vérité, c'est que Jésus nous laisse passer par des temps difficiles. Il n'y a pas de certitude sur comment difficile et comment long peut être la tempête. Pour toi, ça peut être entre autres la maladie ou la mort d'un être cher. Pourquoi c'est arrivé? Puis on n'a pas de réponse bien souvent à ces questions-là. C'est comme cet homme, 34 ans, marié avec 3 enfants, qui travaillait dans son église. Il avait la vie qu'il voulait, il était heureux, il servait Dieu. Et tout d'un coup, il apprend qu'il a le cancer. Et dans ce cancer-là, il témoigne en disant que la maladie, Dieu l'a utilisée dans ma vie pour que je sois un meilleur père, pour que je sois un meilleur mari, pour que je sois un meilleur boss au travail. Dieu a utilisé la maladie pour me faire grandir. Et en racontant cette histoire, il dit, mais là, le cancer, premièrement, il guérit du cancer et il témoigne de comment le cancer a été une bonne chose pour lui et comment Dieu a été bon au travers du cancer. Et quelques temps plus tard, le cancer revient. Et à ce moment-là, il témoigne en disant, à ce point-ci, mon cancer, les médecins ont dit que je vais mourir. Et on arrive à se poser toutes sortes de questions. Mais pourquoi Dieu, tu t'es servi de la maladie pour que lui puisse grandir, il puisse te servir, il puisse être un meilleur père pour ses enfants, qu'il puisse être un meilleur mari pour sa femme. Et là, tout d'un coup, la maladie revient et il va mourir. Et ce qu'il disait, c'est que peu importe si je meurs ou si je vis, je veux que vous sachiez que Dieu est bon. Peu importe le résultat. Et voici le témoignage de sa vie jusqu'au jour où il est mort. Et à ce moment-là, sa femme a écrit, en annonçant le décès de son mari, sa femme a écrit, « Le cancer a perdu et Jésus a gagné. » Même la mort physique de cet homme-là n'était pas vue comme une défaite pour cette famille. Jésus a gagné. Quel témoignage de cet homme envers sa famille, quel témoignage de cet homme envers les gens qui l'entouraient. Et on voit la foi de cette femme qui dit, « Mon mari, là, il n'a plus le cancer aujourd'hui, puis il est vivant avec Jésus. Jésus a gagné. » Où est-ce que tu te tournes quand c'est trop difficile, quand tu n'y arrives plus, quand tu as l'impression que c'est trop? Des fois, on se dit, ben, je vais mettre ma confiance ailleurs ou dans mes propres moyens parce que là, ça fait trop mal. Mais ça va résulter en plus de fatigue, plus de découragement, plus de déception. Jésus permet qu'on soit dans la tempête. Mais ce que Jésus veut qu'on sache avant tout, c'est pas juste « je vous laisse aller dans la tempête », mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que je suis dans la tempête avec toi. Je suis dans le bateau avec toi. John Ortberg a dit, Jésus regarda la tempête et dit « silence, tais-toi ». Il n'a pas dit « si vous me suivez, vous n'aurez jamais de difficultés ». Car même Jésus était confronté à des difficultés qui l'ont même mené jusqu'à la mort. Il a été tué. Mais le silence ou la paix ne se trouve pas dans un lac sans tempête. Elle se trouve parce que Jésus est dans le bateau avec nous. Elle se trouve parce que Jésus est dans le bateau avec nous. C'est pour cette raison qu'il dit « Attends, sois patient, ne crains pas, crois en moi, parce qu'il est puissant. Il nous laisse passer dans les tempêtes, mais aussi parce qu'il nous aime. » Les tempêtes dans nos vies, on ne peut pas dire qu'elles nous aiment. La nature est violente, destructrice, puis un jour ou l'autre, elle va avoir raison de nous. Mais Jésus, il est là avec nous pour nous faire grandir, pour augmenter notre foi, pour nous montrer sa grâce. Tim Keller a dit en parlant de ce passage, « Si je me réfugie en Jésus, je ne le contrôle pas. » Jésus est au contrôle. Il permet des choses que j'ai du mal à comprendre. Il n'agit pas selon mes plans ou d'une manière qui soit sensée à mes yeux. Mais si Jésus est vraiment Dieu, il doit avoir ses raisons. Quand il vous laisse passer par des situations inexplicables, sa puissance est sans borne. Mais sa sagesse et son amour le sont également. La nature ne fait aucun cas de vous, mais Jésus vous aime d'un amour irréductible. Il y a quelques années, alors que j'étais à l'école biblique, j'avais vu la photo d'une jeune fille sur un mur, en tout cas pendant que je faisais l'entretien. On m'a raconté l'histoire de cette jeune fille-là. Je crois que son père avait été un professeur à l'école et... Mais cette jeune fille-là qui était à la fin de ce secondaire, un jour dit à ses parents, « Moi, j'aimerais ça que ma vie ait un impact pour l'Évangile. J'aimerais ça que mes amis puissent connaître Jésus, celui qui est mort à la croix pour mes péchés, celui qui m'a aimé. J'aimerais ça que les gens qui sont autour de moi, que mes amis puissent le connaître et avoir cette relation-là avec lui que moi j'ai. Et je serais prête à mourir pour que mes amis puissent connaître Jésus. » Elle voulait avoir cet impact pour l'Évangile auprès de ses amis. Et un jour, alors qu'elle était en voiture avec ses amis, il y a eu un accident d'auto et elle est morte dans l'accident d'auto. Et par le témoignage de sa vie et par sa mort dans la voiture, ses amis qui ont assisté aux funérailles, qui sont allés à l'église, qui ont entendu l'Évangile, plusieurs de ses amis ont été impactés par l'Évangile. Et c'était son désir le plus cher. Et son père qui a perdu sa fille, quand les policiers sont venus pour annoncer à leur père que sa fille était décédée, le père a répondu aux policiers les paroles de Job qui dit « Dieu a donné, Dieu a enlevé, béni soit le nom de l'Éternel. » Dans ces moments tragiques qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas exprimer, qu'on ne peut pas expliquer, on voit que Dieu veut et peut faire une différence dans nos vies et nous montrer sa grâce spéciale, son amour et le bien qu'il est en train d'opérer malgré les tragédies. Malgré les tragédies que personne souhaite. Jésus a calmé la seule tempête qui pouvait nous noyer. Si la tempête de cette histoire était un ennemi puissant Mais on peut voir que Jésus nous montrait vers quelque chose de plus grand qu'il allait faire. Alors que si Dieu était en train de dire « Je suis la puissance qui est capable de contrôler les éléments de la nature, je suis aussi le Tout-Puissant qui va être capable de vaincre le plus grand ennemi que le monde a connu, la mort, le péché et la mort. » Jésus a accompli quelque chose d'encore plus grand. Il a pris nos péchés, a payé pour la condamnation qui nous était destinée. Il nous a sauvés de la plus grande tempête à laquelle on faisait face. À la plus grande tempête peut-être à laquelle tu fais face présentement, celle où est-ce qu'on est séparé de Dieu à cause de notre rébellion, à cause de notre désir de vivre notre vie par nos propres moyens. Et de toutes les tempêtes que nous avons vécues, voici ou que nous allons vivre, voici celle qui nous donne confiance de pouvoir vivre avec foi et espérance avec Jésus dans tous les jours de notre vie. C'est celle où est-ce que Jésus est mort et il est ressuscité des morts pour nous donner cette vie avec lui. Jésus a accompli cette opération de sauvetage pour que tu puisses vivre avec foi et espérance. Cette espérance qui va prendre soin de toi. Jésus t'a sauvé des plus grandes la plus grande tempête qui... Et Jésus va tenir ses promesses envers toi. Si Jésus dit, allons de l'autre bord, on va aller de l'autre bord. Si Jésus dit, fais-moi confiance, il est digne de confiance. C'était vrai dans la journée où est-ce que tu étais comme moi au camp des boulots, plein de confiance dans la parole de Dieu, dans les encouragements. Et c'était vrai aussi la journée que j'étais à l'école et que je trouvais ça difficile d'obéir aux commandements de Dieu. Je t'encourage à venir à Jésus ce matin, peu importe où est-ce que tu es, peu importe la tempête qui se trouve dans ta vie. Je t'encourage à venir à Jésus, à lui laisser tes fardeaux, à te tourner vers lui et de croire encore une fois dans sa puissance, que tu peux mettre ta confiance en lui. Jésus, c'est le Dieu Tout-Puissant en qui tu peux mettre ta confiance. Tourne-toi vers lui. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière peut-être pour un frère ou une sœur qui vit cette tempête présentement. Tourne-toi vers Jésus qui veut te pardonner de tes péchés, qui veut avoir cette relation avec toi et te dire « Je suis avec toi tous les jours de ta vie ». Je t'encourage ce matin à laisser tomber, à lâcher prise pour lui faire confiance et croire que lui peut t'accompagner dans ces temps difficiles, dans ces tempêtes de ta vie. Prions ensemble. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour tes bontés, pour ta grâce. Merci parce que tu es avec nous. Je te prie que cette semaine même, alors qu'on est au milieu de ce temps difficile, alors qu'on est découragé, alors qu'on a peur, alors qu'on manque de courage, je te prie que cette semaine même, tu puisses chacun d'entre nous montrer que tu es là avec nous, que tu prends soin de nous. Que tu puisses nous encourager par ta présence, par ta puissance et par ton amour. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur Jésus. C'est dans ton nom qu'on te prie. Amen.